Ça, je propose une autre petite réflexion sur cette notion de connaissance, d'être connu de Dieu. Et je propose comme base quelques versets dans la lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe. La fin d'un passage des plus connus, que nous lisons en contexte dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, partie du verset 4. On l'a tous entendu certainement, à un mariage ou à un autre, notamment. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui était propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière confuse, comme dans un miroir. Alors, nous verrons face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Le jour où la perfection apparaîtra, alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Le jour où la perfection apparaîtra, ce que je comprends comme étant le moment où nous serons dans la présence parfaite de Dieu, soit suite à notre décès, soit suite au retour de Christ, selon ce qui arrivera en premier. D'autres traductions, ou plutôt quand viendra l'accomplissement, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors je passerai un sérieux cap. Il y aura un bond certainement qualitatif et quantitatif dans ma connaissance de Dieu. Connaissance évidemment bien loin d'être une simple compréhension intellectuelle ou un simple savoir. Nous le comprenons bien, je pense. Sans pour autant être nécessairement pressé de quitter cette terre, que le temps de Dieu se fasse, j'avoue que je me languis quand même de ce merveilleux moment à venir, où sans plus aucune contingence, ni limite terrestre ou charnelle, je pourrai être, je serai, face à face avec le Seigneur, dans sa parfaite présence. Oui, je m'en réjouis, rien que d'y penser. Je me languis de grandir dans la révélation et la connaissance de Dieu. Pas vous ? C'est un temps certes à venir, mais dont nous avons déjà de grandes et belles prémices. Prémices, pas juste promesses, prémices comme premier fruit, mieux qu'un simple avant-goût. Même s'il y a encore évidemment plein de promesses à venir. Alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Mais d'abord, je reviens sur la base, rembobinage. Je reprends les versets de tout à l'heure. Seigneur, vers qui irions-nous ? Hop, ça va trop loin, voilà. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous avons connu que tu es le Saint envoyé de Dieu. C'est la belle confession ou profession de Pierre, mentionnée tout à l'heure. Nous avons connu. Mais suivi des mots de Jésus soulignant, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, les 12 ? Aucun mérite personnel à tirer du fait de connaître, d'avoir connu, compris, reçu Christ dans sa vie. Tout est en effet œuvre de Dieu. Dans un autre passage, un dialogue en substance similaire nous rapporte aussi. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Simon Pierre, c'est toujours lui qui est porte-parole souvent, hein, c'est lui qui exprime le plus facilement ce qu'il pense. Simon Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Encore une belle confession. Mais Jésus, là encore, rajoute, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ne ce sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Dieu, source de tout, d'absolument tout, y compris de notre possibilité de connaître Christ et Dieu. Pas de révélation sans l'initiative et l'action de Dieu. Faut-il négativement voir là une volonté systématique de casser Pierre dans son enthousiasme ? Non, bien sûr, je ne crois pas. De casser toute source d'orgueil qu'il pourrait y avoir en l'homme ? Là, ce n'est pas nécessairement inutile. Car oui, l'être humain a souvent de l'orgueil, même dans le domaine spirituel, se vantant de connaître Dieu, s'enorgueillissant de s'être élevé, un peu, croit-il, vers Dieu, par je ne sais quel mérite personnel. Mais quoi qu'il en soit, moi, positiviste que je vois surtout un Jésus soulignant par ses précisions répétées la bonté et l'amour de Dieu. Ah bon ? Comment ça met du temps à réagir ? Voilà. Comme le souligne Jésus, la grâce de Dieu se manifeste en particulier par les révélations qu'il accorde. La grâce de Dieu se manifeste en particulier par les révélations qu'il accorde. Ce n'est en effet pas un dû, c'est une grâce. Il n'y a à la part de Dieu pas d'obligation quelconque à se révéler. Dieu aurait très bien pu choisir de rester caché, lointain, inaccessible. Que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi, a-t-on chanté tout à l'heure. Ce n'est pas une quelconque prouesse spirituelle ou religieuse ou intellectuelle quand quelqu'un, parmi les faibles et mauvais mortels que nous sommes, réussit, entre guillemets, à quelque peu connaître Dieu. Ce n'est que grâce, pure grâce de la part de Dieu. Ne l'oublions jamais. Et ouf pour nous, excellente chose pour nous. C'est dans la nature même de Dieu de partager et de vouloir se révéler à nous, êtres humains, qu'il a créés et qu'il aime. Il ne veut en effet pas nous laisser errants, éperdus et seuls. En conséquence, pas de misérabilisme de notre côté, mais au contraire, j'espère, de l'émerveillement. De l'émerveillement dans la compréhension de qui Dieu est et de ce que Dieu fait. De l'émerveillement en découvrant ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce qui se révèle. Et en se découvrant au bénéfice possible de la grâce divine, justement. Possible si nous la saisissons. Quelle grâce, en effet, de le connaître. Pour remettre le sujet dans l'autre sens, dans le sens sur lequel la Bible nous invite plutôt à insister. Quelle grâce d'être connu de Dieu. Quelle grâce d'être connu de Dieu. Ne nous en lassons jamais, n'en soyons jamais blasés. Dieu révèle, Dieu choisit, pour reprendre les mots de ces versets. Je ne m'attarde volontiers pas sur la tension que cela entraîne par rapport à notre logique humaine limitée, à notre volonté d'être indépendant, d'être libre de choix. C'est vrai qu'on a du mal à concevoir qu'à la fois, d'un côté, Dieu décide de tout, créant même en nous le vouloir et le faire, et à la fois, de l'autre côté, que l'homme est libre et responsable. Et il y aura encore de grands débats sur ce sujet. Je viendrai peut-être une autre fois si cela intéresse. Mais ce matin, moi, je veux surtout et avant tout insister sur l'émerveillement de la grâce et de l'amour de Dieu pour moi, pour nous. Si j'ai compris que ma vie n'a de sens que dans et par sa grâce, que sous sa direction, que dans sa sûre main, que dans son amour, je reconnais en effet que ce n'est que par sa seule révélation, son seul choix, sa seule action, sa seule grâce, et effectivement toute la gloire, absolument toute la gloire lui revient, comme nous l'avons chanté ce matin. Et à l'inverse, zéro, absolument zéro mérite pour moi. Et pour le dire franchement, savoir si j'ai personnellement été décideur de quelque chose ou non dans tout cela, ou si c'est exclusivement le choix de Dieu, je m'en fiche. Ça ne me préoccupe pas. Je veux simplement dire merci Seigneur. Merci Seigneur, reconnaissance à Dieu. Un point, c'est tout. Vivre l'amour et la communion de Dieu sont alors effectivement les seules choses qui comptent, et le reste importe peu. Dieu m'a aimé le premier, merci. Dieu s'est révélé à moi, merci. Dieu a suscité en moi la foi, merci. Dieu m'a choisi, merci. Dieu, par son esprit, a produit en moi le vouloir et le faire, tant mieux. Que dans sa grâce, il le fasse encore. Et qu'il le fasse encore pour beaucoup d'autres personnes, ici ou ailleurs. Telle est ma prière et la demande que je lui fais. Et désormais, vivre dans la reconnaissance, l'admiration, l'émerveillement de le connaître et de pouvoir vivre de lui. Pouvoir laisser l'esprit me remplir. Et là, j'ai absolument besoin de son aide, de sa patience, de sa fidélité, de son pardon, de sa grâce. Laissez l'Esprit me guider, me garder, m'équiper, mettre en œuvre en moi et à travers moi la volonté de Dieu pour lui rendre gloire, pour vivre à sa gloire, et notamment si je peux aider d'autres à le découvrir. Même si c'est Dieu qui va tout faire, il n'y a que ça qui compte vraiment. D'autres préoccupations ont-elles plus d'importance ? Franchement, j'aurais tendance à dire non. C'est dans cette logique qui ne peut que me laisser ou me rendre humble que je poursuis cette thématique. Après les premières découvertes offertes par Dieu, nous grandissons ensuite. De gloire en gloire, pour reprendre l'expression d'un verset, d'un passage abordé il y a quelques semaines. Mais cela est par définition progressif, trop poussif peut-être des fois, et reste partiel. Car, explique Paul de façon imagée dans notre passage, « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière confuse, comme dans un miroir. » Aujourd'hui, nous ne voyons que d'une manière confuse, comme dans un miroir. Évidemment, si nous pensons à nos miroirs d'aujourd'hui qui reflètent une image très exacte, sinon parfaite, quoique quand même toujours à l'envers de l'original, hein, la métaphore fait moins sens. Mais si nous considérons les bouts de métal, du bronze ou du cuivre, qui à l'époque de Paul étaient polis plus ou moins grossièrement, plus ou moins finement, pour devenir un tant soit peu réfléchissant, nous comprenons que l'image, le reflet, restait alors somme toute assez approximatif, déformé par rapport à l'original. Aujourd'hui, pour l'instant, les vérités révélées, car Dieu révèle par Christ. Ces vérités révélées, malgré le privilège d'avoir la Bible, passent encore pour moi chrétien par le filtre de mon expérience, de mes besoins, de mes péchés, aussi également de l'influence du monde extérieur. Et comme non seulement le monde extérieur, mais surtout mon propre cœur sont encore obscurcis, l'image rendue ne peut pas encore être parfaitement pure et nette de qui est Dieu. Je ne vois qu'obscurément, de façon encore floue, confuse, en une énigme, si je traduis littéralement le mot grec du verset. Énigme qui, bien que j'avance pas à pas, laisse encore des zones de mystère, d'ombre, des questions sans réponse. Ça a été évoqué dans une prière tout à l'heure. Je ne comprends encore qu'imparfaitement, je n'en connais encore qu'imparfaitement. jusqu'au jour où je verrai face à face, directement, nettement, je verrai le Seigneur, effectivement, face à face. Par la fin du péché dans nos vies, oui, assurément, il y aura un changement plus que remarquable dans notre connaissance du Seigneur. Nous le verrons face à face. Mais j'espère, et Dieu le veut, pas la peine de juste attendre, et encore moins attendre passivement. On le sait bien, au fil de la vie chrétienne, au fil de la sanctification, au fur et à mesure de l'action restauratrice et transformatrice de l'Esprit-Saint en nous, il y a bel et bien, dès maintenant, dès notre conversion, possibilité de croissance dans la connaissance de Christ et de Dieu. Car Dieu agit effectivement. Dieu agit effectivement. Le polissage est en cours. Par Dieu lui-même, n'en doutons pas. Notre connaissance grandit. Notre ressemblance à Christ progresse. Et vers à moitié vide, on pourrait se lamenter chaque jour du faible niveau auquel nous sommes encore. Mais vers à moitié plein, on peut assurément se réjouir de l'œuvre de Dieu et vouloir nous y engager davantage et de tout cœur. Ou pas. Tout en acceptant ce constat de Paul, constat normal, réaliste, que cela restera toujours partiel jusqu'au jour où la perfection apparaîtra. Jour où là, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Comme dit précédemment, il y aura un jour un formidable saut qualitatif et quantitatif. Même si je ne pense pas qu'il faille considérer le « comme » utilisé par Paul comme voulant dire que nous connaîtrons de façon identique, aussi parfaite et complète que celle dont Dieu lui connaît. Ce ne sera strictement « comme » pas comme Dieu, car si nous connaissions de façon identique à Dieu, nous serions nous-mêmes Dieu. Ce qui ne sera jamais le cas. Mais il y aura assurément un avant et un après. Un nouveau et extraordinaire palier quand nous verrons le Seigneur. Réfléchissons, méditons, désirons connaître autant que possible dès maintenant la façon dont Dieu me connaît, dont Dieu m'a connu. La traduction plus littérale sera en effet sans doute « comme j'ai été connu ». La conjugaison dans le grec est un passif au passé. Je n'ai juste pas encore tout compris. Je ne l'ai juste pas encore pleinement saisi. Mais oui, Dieu me connaît de toute éternité. Dieu m'a connu de façon parfaite, absolue, illimitée. Et j'espère que je ne peux que m'en émerveiller. Même si ma perception, ma compréhension est encore trop limitée, encore réduite. Dieu me connaît, Dieu m'a connu de façon parfaite, absolue, illimitée. C'est vrai que ce n'est pas écrit mot pour mot dans le verset. Hein. Paul ne dit que simplement « je connaîtrai comme j'ai été connu », ce qui semble assez laconique. Mais à moins de considérer le « comme j'ai été connu » comme ne signifiant pas implicitement « par Dieu », mais par je ne sais qui ou je ne sais quoi d'autre. Alors pouvez-vous imaginer Dieu me connaître que partiellement ? Ou Dieu me connaître qu'imparfaitement ? Ou qu'à contre-cœur ? Ou avec une quelconque limitation ? Moi, je ne connais pas encore bien Dieu, mais ma connaissance de lui n'est encore que partielle. Mais le peu que j'en ai compris me fait dire sans aucun doute que sa connaissance ne peut être que totale, pleine, entière, parfaite, absolue, illimitée. En toute chose et également pour ce qui me concerne, pour ce qui nous concerne. Je l'ai un peu découvert, je vais petit à petit le découvrir davantage, je vais finalement le découvrir pleinement. Tel est le programme magnifique de Dieu pour vous et pour moi. Mais ça veut dire quoi connaître ou être connu ? Effectivement, la question qui nous vient... Certainement. Il y a certainement dans ce connaître de la part de Dieu une notion d'omniscience, évidemment, car Dieu connaît tout, il sait tout. Et donc tout de moi, chaque recoin, même les plus sombres, et chaque détail de ma vie, passée, présente, future. Mais le contexte de ce passage de Corinthiens pousse, je crois, à comprendre ce connaître de la part de Dieu comme étant plutôt la mesure de l'amour dont il m'aime. Ou je devrais plutôt dire la démesure de l'amour dont il m'aime. Puisque c'est un amour infini. Un amour infini que je découvre, un amour infini dont je découvre être aimé. Un amour un peu décrit dans les versets qui précèdent, un amour un peu révélé dans toute la parole, un amour qui ne demande qu'à se révéler au fur et à mesure de notre croissance dans la communion et la relation vivante avec Christ. Je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître, pour être capable de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cette prière de Paul est extraordinaire. Elle n'est pas seulement pour le jour où la perfection apparaîtra. Dès maintenant, il a ce désir. Dès maintenant, il a cette envie pour lui-même et surtout pour celles et ceux à qui il écrit, pour tous les chrétiens, de déjà grandir dans cette connaissance. Et comme y encourage Paul, pendant toute ma vie chrétienne terrestre, je vais, et je le veux aussi, je mets un point d'interrogation à ce « je le veux aussi », grandir dans la connaissance de la façon dont Dieu me connaît, dans la connaissance de l'amour de Dieu, grandir jusqu'au jour où la perfection apparaîtra. Cela nous donne-t-il envie, ou plus envie, d'avancer avec lui, de grandir avec lui ? D'en connaître déjà plus sans attendre. Le beau chemin est déjà commencé. Continuons-le. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Je comprendrai toute la mesure de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. On a déjà commencé un peu et on peut déjà grandir en cela. Alors, il y a nécessairement une interprétation de ma part quand je le reformule ainsi, mais j'ai envie de paraphraser en disant « Je comprendrai comment j'ai été aimé. » Un passé peut-être en référence à une meilleure compréhension de toute la portée du ministère de Christ et de son sacrifice pour moi. « Je comprendrai comme j'ai été aimé. » Ou encore « Je comprendrai comme je suis aimé au présent. » Plutôt en référence à l'amour incommensurable et immuable de Dieu pour moi, son enfant. Je comprendrai comme je suis aimé. Paul joue souvent, je trouve, dans différents passages, avec le mot « connaître », parce que notamment les Grecs s'enorgueillissaient vraiment de la connaissance, au sens strictement intellectuel, philosophique de la connaissance. Ils avaient fréquemment un orgueil jouissif et pompeux de l'élévation de l'esprit humain, de la supériorité humaine cérébrale, la sagesse des sages penseurs. Et Paul et Dieu s'en moquent et ironisent, avertissent du danger aussi. Ils ironisent souvent sur cette connaissance-là, qui est pourtant, sauf erreur de ma part, un des sens principaux retenus jusqu'à aujourd'hui dans la définition du mot « connaissance ». Mais par contre, pour ce qui concerne le lien avec Dieu, « connaître », a dans la Bible certainement plutôt un sens relationnel, un sens de relation et de communion intime et vivante, relation particulière et même relation d'exception. Connaître comme une relation d'exception. Les Hébreux aiment souvent utiliser des euphémismes pour dire certaines choses un peu gênantes. Et quasiment tous les auteurs du Nouveau Testament, à part Luc, je pense, sont juifs. Et donc imprégnés de cette culture hébraïque, ils utilisent ainsi régulièrement le mot « connaître » pour exprimer l'intimité et la communion exceptionnelle que crée l'union conjugale entre un homme et une femme. Évidemment, notre relation avec Dieu, contrairement à certaines croyances ou religions, n'a absolument rien à voir avec le domaine sexuel. Absolument rien à voir, c'est évident. C'est d'un tout ordre. Mais je crois qu'il y a quand même là, dans l'usage de ce mot, dans ce que ce mot veut véhiculer, certains aspects qui relèvent effectivement de la même intimité, de la même unicité, de la même union que Dieu veut offrir que celle si particulière que crée la conjugalité. Je ne sais pas si je me trompe et si je suis bien clair, mais je crois qu'il y a de ça dans ce que Dieu veut nous offrir comme relation avec lui, sans pour autant créer une égalité entre lui et nous. Lui reste Dieu, bien sûr, et nous restons êtres humains. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Je vivrai la communion parfaite en Christ avec Dieu. Je vivrai l'amour parfait de Dieu par Christ. Je vivrai une intimité et une relation d'exception, exceptionnelle, avec Dieu. Moi, je me languis de cela. Je me languis de cela. Et pour maintenant, Dieu nous offre déjà de grandir chaque jour dans notre communion avec lui, dans cette relation intime avec lui. Quel privilège. Quel privilège. En attendant la communion parfaite, permanente, sans plus aucun nuage ou fluctuation, comme ça peut être le cas maintenant, oui, désirons grandir dès aujourd'hui. Désirons grandir dès aujourd'hui, non ? Non ? Comment voulons-nous connaître Dieu ? Comment voulons-nous connaître Dieu aujourd'hui ? Désirons-nous vouloir grandir dans la découverte de l'amour dont nous avons été aimés et dont nous sommes aimés pour connaître Dieu ? C'est l'invitation que je me lance, que je nous lance, que Dieu nous donne par la méditation, la réflexion, la contemplation, mais bien sûr aussi l'action, par une vie active, vivante, même si c'est un peu un pléonasme, avec Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour Dieu. Profitons de l'été, profitons de chaque jour pour y aspirer, et non seulement y aspirer, mais nous y engager. Et pour les exercices pratiques, demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre les qualificatifs concrets de son amour. Pratiquons-le avec son aide. Et je relis. C'est tout à notre portée, facile. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Pas de fin, puisqu'effectivement, nous allons grandir dans cette connaissance, dans cet amour, jusqu'à découvrir la perfection de l'amour de Dieu parfaitement. Je suis sûr que les occasions ne manquent pas dans nos quotidiens de s'appliquer cela, d'appliquer cela, même si je manque peut-être souvent certaines de ces occasions. Avec ma famille, avec mes voisins, avec mes collègues, avec les inconnus. Seigneur, aide-nous à aimer comme tu aimes, à connaître comme tu nous connais. Fais-nous vivre ton amour. Émerveille-nous par ce que l'on pourra connaître de toi et en conséquence vivre ce que l'on peut déjà connaître de toi. Et que nous le vivions sans retenue dès maintenant. Donne-moi cette soif de grandir dans cet amour, que je sache, que je veuille vivre plus étroitement la communion avec toi, et la partager autour de moi. Je vous souhaite une belle connaissance du Seigneur. Je vous souhaite une belle communion avec le Seigneur. Amen.